Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de revenir dans mon église parce que l'église de l'espoir reste et restera toujours mon église. Partout le Seigneur m'a permis de passer, je crois que ça reste dans mon église et qui sait, le monde étant petit, Sorel n'est pas si loin de Longueuil. Peut-être que je suis sur la voie du retour à Longueuil. Ce matin, on va parler d'un sujet assez important, même si le mot ne se trouve pas dans la Bible en tant que tel, la Trinité. C'est un sujet fondamental parce que c'est vraiment un des principes fondamentaux de la foi chrétienne. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'introduire cet enseignement avec vous ce matin. Et d'autres prédicateurs viendront compléter avec la personne du Fils Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons nous concentrer principalement sur la personne du Père. Mais d'entrée, avant d'aller dans la prière, j'ai lu récemment une histoire, l'histoire d'un père juif. Et l'histoire dit ceci. Un père juif était préoccupé par l'avenir de son fils parce qu'il ne l'avait pas vraiment élevé dans la foi judaïque. Donc, dans l'espoir de remédier à cela, il a envoyé son fils en Israël pour que le garçon puisse connaître son patrimoine. Un an plus tard, le jeune homme rentre chez lui et dit « Père, je vous remercie de m'avoir envoyé sur la terre de nos pères. C'était vraiment merveilleux et instructif. Cependant, je dois avouer que quand j'étais en Israël, je me suis converti au christianisme. Oh, j'ai mis le père. Qu'ai-je fait? Aussi, suivant la tradition des patriarches, il est allé voir son meilleur ami pour lui demander quelques conseils et du réconfort. Il est étonnant que tu sois venu vers moi, répond son ami. Moi aussi, j'ai envoyé mon fils en Israël et il est devenu chrétien. Ainsi, suivant la tradition des patriarches, ils sont allés voir un rabbin. Il est étonnant que vous soyez venu vers moi, déclare le rabbin. Moi aussi, j'ai envoyé mon fils en Israël, il est devenu un chrétien. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Frères, nous devons nous adresser au Seigneur, dit le rabbin. Ils tombèrent à genoux et commencèrent à pleurer et à déverser leur cœur devant le Tout-Puissant. Comme ils priaient, les nuages s'ouvrirent et une voix puissante se fit entendre. Étonnant que vous soyez venu vers moi. Moi aussi, j'ai envoyé mon fils en Israël. Bien-aimé, quand j'ai lu cette histoire et quand le pasteur Yannick m'a dit que je devais apporter un enseignement sur le Père, j'ai dit qu'il n'y avait pas de plus belle illustration que cette relation entre Père et Fils, entre ces Juifs qui avaient tous envoyé leur enfant en Israël et qui sont revenus chrétiens. Parce qu'en Israël, ils avaient rencontré le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Ce matin, le passage qui va servir de fil conducteur à notre enseignement ce matin est tiré du prophète Ésaïe au chapitre 64, le verset 7. Là, il est écrit, « Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. » Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce matin, nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence parce qu'un jour, il t'a plu dans ton grand amour de nous envoyer ton Fils, afin que par lui, par sa mort et surtout par sa résurrection, que nous soyons sauvés. La Bible dit avec raison à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce matin, Seigneur, c'est humblement que nous venons à tes pieds pour demander ton assistance. Seigneur, ce matin, efface-moi de devant ton peuple et que ton peuple t'écoute, toi le seul vrai Dieu. Que ton peuple puisse entendre pas la voix d'une personne, mais la voix du Saint-Esprit qui nous parle cœur à cœur, esprit à esprit. Merci Seigneur, viens et glorifie-toi au milieu de ton peuple et que ton peuple dise Amen. Bien-aimé, ce matin, J'aimerais, en introduction à cet enseignement, vous donner une illustration. Parler de la Trinité n'est pas chose facile parce que c'est une vérité, non seulement c'est une vérité fondamentale, mais il y a des aspects qui sont difficiles à comprendre humainement parlant. Mais ce matin, je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'expliquer un sujet aussi complexe que celui-là et de dire pourquoi est-ce que les chrétiens croient en un Dieu en trois personnes. Et certains même dans le monde, dans la société, pensent que les chrétiens croient en trois dieux. Mais comment essayer d'expliquer cela? Et c'est assez surprenant parce que Dieu, dans la nature, a donné comme une sorte d'illustration parfaite de ce que peut être la Trinité. Et cette illustration, la voici. C'est le changement de la matière. Et on va prendre un exemple assez simple, l'eau. L'eau se retrouve dans la nature sous trois formes possibles. L'eau liquide que nous connaissons naturellement, l'eau solide, la glace, et la vapeur d'eau sous forme de gaz. Ces trois réalités de l'eau, donc l'eau liquide, la glace et la vapeur, représentent la même réalité physique que les physiciens appellent H2O. Donc, c'est exactement la même chose. Si vous envoyez votre enfant dans la cuisine, allez me chercher de l'eau, et il vous revient avec un bloc de glace. Que lui diriez-vous? Ne t'ai-je pas dit d'aller me chercher de l'eau? Et pourtant, c'est de l'eau qu'il vous a amené. S'il pouvait apprivoiser l'ensemble de la vapeur d'eau quand vous êtes en train de faire cuire vos patates et qu'il vous le présentait, probablement que vous le renverrez à la cuisine alors qu'effectivement, c'est de l'eau. Bien aimé, cette illustration, pour moi, est l'illustration parfaite pour expliquer ce en quoi les chrétiens, nous chrétiens, nous croyons. Nous croyons que Dieu existe sous trois formes. Ces trois formes ne sont pas identiques. Ces trois formes, ce n'est pas le Père n'est pas égal au Fils. En termes, le Père n'est pas confondu au Fils. Le Fils n'est pas confondu au Saint-Esprit. Le Père est distinct, le Fils est distinct, le Saint-Esprit est distinct. Mais les trois entités représentent la même réalité spirituelle, Dieu. Les trois entités représentent la même réalité spirituelle, Dieu. Nous n'adorons pas trois dieux, nous adorons un seul Dieu, unique. Mais ce Dieu unique s'est manifesté à sa créature, à sa création, sous ces trois formes. Et c'est ça qui nous amène dans cette vérité, trois formes différentes, trois personnes différentes dans la personne de Dieu, le Père, le Fils, en la personne de Jésus-Christ. Il ne faut pas se tromper du Fils. Le Fils, c'est en la personne de Jésus-Christ et ensuite le Saint-Esprit. Maintenant, on se dit, c'est trois personnes. Ces trois personnes, c'est vraiment Dieu. Si on essaie d'utiliser notre illustration de l'eau tantôt. Mais ces trois personnes sont en même temps différentes. Le Père existe en tant que personne à part entière. Le Fils existe en tant que personne à part entière. Le Saint-Esprit existe en tant que personne à part entière. Ces trois personnes ont des interactions entre eux. De la même manière que la glace peut se transformer en eau et tout ça, ainsi de suite, il y a des interactions. Donc, les trois personnes de la Trinité, il y a des interactions. Mais chacun a des attributs spécifiques. Et une autre illustration, plus loin, de la manière de la chimie qui existe entre les trois réalités spirituelles dont nous venons de parler, la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont des attributs différents. Mais aussi des attributs parfois complémentaires. Quand on considère quelques attributs de Dieu, si on va dans les diapos plus loin, quand on considère quelques attributs de Dieu, on se rend compte que quand on parle de Dieu, on parle de l'omniprésence de Dieu, de l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu, de l'omniscience de Dieu. Donc, ce sont des attributs de Dieu. Alors, on peut s'attendre à ce que, est-ce que ces trois attributs se retrouvent tous entièrement dans la personne, dans les trois personnes dont on vient de parler, dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De son vivant, Jésus-Christ ne pouvait pas être en tous les lieux à la fois. Il pouvait être qu'en un seul endroit à la fois. Donc, de son vivant, le Fils Jésus-Christ n'était pas omniprésent partout de son vivant. Mais quand Jésus-Christ est mort et quand il s'est fait enlever devant les yeux de ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans toutes les sphères, dans tout l'univers, tout pouvoir. Donc on voit ainsi la déclaration de l'omnipotence, de la toute-puissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, est-ce que Jésus-Christ est omniprésent? Est-ce que Jésus-Christ est omniprésent? Est-ce que le Père est omniprésent? Oui, mais comment? Est-ce que, et si je vous demande, si je choisissais ma sœur juste devant, et je te demande, combien de personnes habitent chez vous? Une seule personne. Ah, deux. Donc, vous êtes deux personnes. Mais est-ce qu'ils sont deux réellement chez eux? La vérité, c'est qu'ils sont cinq dans leur maison. C'est qu'il a oublié de compter les trois autres personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, normalement, chacun de nous, à son adresse civique, devait déclarer à l'hôtel de ville plus trois personnes le nombre d'habitants chez lui. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est la parole de Dieu qui le déclare et la Bible le déclare dans Jean 14, 23. Il dit, Jésus dit, que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi et mon Père, on viendra habiter chez vous. C'est ce que la Bible dit. Moi, je crois la Bible, ce qu'elle dit. La Bible dit que le Père et le Fils vont s'entendre si nous gardons leurs commandements et ils viendront habiter chez nous. Mais comment est-ce qu'ils habitent? Moi, quand on mange le souper, il n'y a pas, ces trois personnes ne sont pas là. On a l'impression qu'ils ne sont pas là parce qu'il n'y a pas de chaise réservée pour eux spécialement. Mais ils sont là par l'action du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies que les trois personnes de Dieu sont présents dans nos vies. Bien-aimés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent. Mais ce matin, j'aimerais me concentrer davantage sur la personne du Père. Qui est le Père? Et j'aimerais répondre simplement à deux questions ce matin. Un Père, pourquoi faire? Un Père, pourquoi Dieu désire-t-il tant être notre Père? Pourquoi faire? Est-ce que c'est important pour Dieu d'être notre Père? Ça, c'est la première question à laquelle j'aimerais répondre. La deuxième question, quel genre de Père Dieu est-il? Le passage que nous avons lu ce matin le dit clairement, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Alors, on va essayer, par la grâce de Dieu, d'apporter quelques éléments de réponse à ces deux questions. Un Père, pourquoi? J'aimerais commencer avec quelques illustrations de la parole de Dieu. Pour, si on n'était pas convaincu que Dieu était notre Père, pour s'en convaincre une fois pour toutes. Commençons dans l'Ancien Testament avec quelques illustrations. Quand nous lisons Ésaïe 64, le verset 16, il est écrit, « C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. » Et plus loin, dans Ésaïe 104, le verset de base de ce matin, le verset 7, « Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Et bien aimé, le temps me manquerait si je devais passer en revue tous les textes bibliques où Dieu se déclare comme étant notre Père, où les hommes de Dieu, des femmes de Dieu, les enfants et serviteurs et servantes de Dieu déclarent que Dieu est notre Père. Donc pour moi, dans mon esprit, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, dans mon esprit, il ne fait aucun doute que Dieu est mon Père. Allons plus loin. Les gens disent, oh, ça c'est l'Ancien Testament. OK, on va aller plus proche de nous dans le Nouveau Testament. Dans Jean 6, le verset 40, voilà ce que les Écritures déclarent. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. Et encore plus proche dans les Épîtres, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 2, l'apôtre Paul déclare que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, quand vous lisez le Nouveau Testament, plus de 250 fois, le mot « Père » est utilisé. Que ce soit par Jésus lui-même dans les évangiles, que ce soit par les apôtres dans les épîtres, le mot « Père » revient plus de 250 fois. Quelque chose un peu pour nous illustrer l'importance que les Saintes Écritures accordent à la notion de « Père », du fait que Dieu est notre Père. Mais normalement, cette notion même va encore plus loin que les 250 fois où le mot « Père » a été utilisé. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on voit le mot « enfant », le mot « fils », le mot « fille », en réalité, cela sous-entend qu'il existe des parents, en l'occurrence un père. Donc, on peut donc considérer tous les passages qui parlent de père, de fils, de fille, d'enfant, comme étant des signes clairs de la part de notre Dieu pour dire que lui, en tant que Dieu, désire être pour nous un père. Maintenant, si dans notre esprit, cela devient de plus en plus clair, que ce soit le Nouveau ou l'Ancien Testament, que Dieu désire être notre Père, la question à laquelle on doit s'attendre, pourquoi est-ce que Dieu veut être notre Père? Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse Dieu à vouloir être notre Père? Et j'aimerais tenter de donner deux éléments de réponse, deux tentatives de réponse. Premièrement, le caractère de la relation que Dieu désire avoir à avoir avec nous est une relation de père-fils ou de père-fille. Je vais l'expliquer davantage. Remarquez que dans la Bible, les Saintes Écritures ne disent pas que Dieu est un bon oncle, que Dieu est une bonne tante, une bonne mère. Et pourtant, est-ce que c'est une mauvaise chose? Il y a quelques textes dans la Bible qui comparent l'action de Dieu dans la vie du chrétien comme l'action d'une mère envers ses enfants. Mais tous les textes s'accordent sur le fait que Dieu, le statut que Dieu désire avoir n'est pas le statut d'une tante, n'est pas le statut d'un oncle, mais c'est le statut de père que Dieu désire avoir. Parce que quelque part, Dieu veut nous enseigner quelque chose au travers de ce statut particulier qui est le statut du Père. Et cela est d'autant plus important que Dieu choisit lui-même dans beaucoup de passages de se présenter à nous comme étant un Père. Dieu désire sincèrement une relation Père-Fils, Père-Fille. Plus loin, on verra comment peut se traduire cette relation dans la vie de tous les jours. Mais poussons un peu la réflexion encore un peu plus loin. On peut même aller jusqu'à imaginer et toute la parole de Dieu semble en accord avec cela, c'est que l'institution de la famille, Dieu l'a permis pour pouvoir mieux se présenter à l'homme. Dieu, en instituant la famille, voulait donner à nous les hommes qui allons devenir ses enfants plus tard, un modèle clair qu'on peut comparer par analogie, par comparaison de ce que lui, en tant que Dieu, veut être pour nous. C'est pourquoi Dieu a institué la famille. C'est pourquoi ça devient de plus en plus dangereux dans nos sociétés au XXIe siècle que nous ayons changé tous les rôles que Dieu a institués dans la famille. Un père reste un père. Il y a des enfants à l'école qui ont deux pères. D'autres en ont deux mères. Même dans les familles chrétiennes, la place du père est de plus en plus bafouée, ainsi que la place de la mère, puisque si l'un prend la place de l'autre et vice-versa, ce n'est pas ce que Dieu a institué, parce que Dieu, en faisant un père, l'a fait dans un rôle particulier, avec un statut particulier, avec des responsabilités, des fonctions particulières. Ce n'est pas une question de sexe. C'est une question de rôle et de statut. Et Dieu a fait un père avec un rôle et un statut. Et ce statut, malheureusement, la société dans laquelle nous vivons au XXIe siècle semble ne pas comprendre l'importance de ce statut, est prêt à changer les règles pour en faire, pour créer de nouveaux modèles de famille, mais le seul modèle de famille qui mérite d'être prononcé devrait être le modèle biblique qui nous a été donné. Bien-aimés, nous devons, en tant que enfants de Dieu, serviteurs, servantes du grand Dieu, faire attention, même dans nos propres familles chrétiennes, quel est le rôle du père, parce que ce n'est pas seulement en termes d'harmonie familiale que le rôle du père ou de la mère est important, c'est aussi en termes d'image que Dieu veut avoir. Il veut être un père et généralement, on va se servir de ce que nous vivons dans nos familles pour comprendre quel genre de père Dieu veut être. Et cela m'amène à ma deuxième question. Quel genre de père Dieu veut être? Ça, c'est quelque chose que tout le monde, certainement dans la salle ici, peut comprendre. Si Dieu, si l'image du Père terrestre est représentative de l'image du Père céleste, alors nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème parce que nous n'avons pas toujours une bonne image du Père. Nous n'avons pas toujours eu, tout le monde ici n'a pas toujours eu une bonne image du Père. Certains, malheureusement, ont dû vivre dans leur jeunesse ou même un peu plus âgés avec un père violent, un père qui abusait d'eux. Certains ont vécu avec un père qui, même s'il n'était pas violent, il était absent, indifférent à ce qui se passe dans sa famille, indifférent à l'avenir de ses enfants. Alors, quand on va vers ces personnes et on veut leur parler du fait que Dieu veut être leur père, ils voient en Dieu la même image que leur père terrestre et il y a un choc parce que ce n'est pas de ce père qu'ils désirent avoir en la personne de Dieu. Moi, mon enfance a été bercée par un dessin animé, Tom Sawyer. Et je l'ai fait suivre par mes deux filles et ils ont aimé. Mais ce n'est pas l'histoire de Tom Sawyer, pour ceux qui connaissent le dessin animé, mais c'est l'histoire d'un de ses meilleurs amis, Huck. Huck, dans la série animée, avait un père violent, un père alcoolique, au point que même s'il n'avait rien fait pour le plaisir, pour son plaisir personnel, le père de Huck pouvait tout simplement rentrer chez lui et se mettre à taper son fils, à lui donner des fessées, des coups de poing, tout ce que vous voulez. Heureusement, pour lui, il n'y avait pas la DPJ en ce moment. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, imaginez que vous avez Huck devant vous aujourd'hui et que vous devez lui présenter Dieu comme père et qu'il devra s'appuyer sur l'image qu'il a de son propre père en la personne de Dieu. Quelle catastrophe! Bien-aimé, c'est pourquoi même en tant que chrétien, je parle principalement aux hommes, notre responsabilité de père, nous devons le prendre au sérieux parce que nous reflétons l'image que Dieu désire être vis-à-vis de l'ensemble de sa création. Voilà toute l'importance. Mais mes sœurs, vous n'êtes pas du reste parce que pour qu'un père joue réellement son rôle, il faut que les mères jouent aussi réellement leur rôle. Femmes, vous avez la lourde responsabilité de faire que vos maris soit de vrai et de bon père dans votre foyer parce qu'il projette l'image de Dieu pour l'ensemble des enfants, mais aussi pour l'ensemble de la famille. Pour répondre à la question « Quel genre de père Dieu est ?» et « Comment est-ce que nous pouvons le vivre au quotidien dans notre vie ?» j'aimerais qu'on passe au travers de quatre éléments. Les quatre éléments sont les suivants. Dieu, notre Père, se consacre entièrement à notre bien. Dieu a comme responsabilité première, quand nous devenons ses enfants, de se consacrer entièrement à notre bien. Deuxième chose, Dieu défend notre cause, quoi qu'il arrive. Et la troisième chose, c'est que Dieu nous discipline. Ça fait partie de ses responsabilités de Père. Et la quatrième chose, c'est que Dieu nous pardonne. Dieu ne se contente pas de nous donner des fessées parce que nous avons commis des erreurs en nous disciplinant, mais Dieu nous pardonne. Et bien aimé, la liste serait longue si on devait énumérer toutes les responsabilités que Dieu s'est engagé à avoir en tant que Père vis-à-vis de nous. Mais j'aimerais tout simplement m'attarder sur ces quatre éléments. Commençons par le premier, Dieu se consacre entièrement à notre bien. Pourquoi est-ce que Dieu, le grand Dieu,
celui qui a fait la terre et le ciel, celui qui a fait les astres, celui qui a fait l'univers entier, celui qui, d'un seul mot, fait tout ce qui bon lui semble. Pourquoi est-ce que un Dieu si grand, si puissant, se consacrerait entièrement à notre bien, nous qui sommes une faible créature? Pourquoi? La raison est simple et chacun de vous peut se l'imaginer. Parce que nous sommes de la famille de Dieu. Bien-aimés, moi je le dis tout simplement et j'ai comme un courant électrique qui me traverse de la tête aux pieds. Je suis de la famille de Dieu. Waouh! Moi, je ne sais pas dans quelle famille vous auriez voulu naître. Certains rêvent d'être nés dans la famille royale d'Angleterre. D'autres se disaient que s'ils étaient ne serait-ce que arrière-petit-fils d'Obama, ça ne serait pas mauvais. D'autres disaient que si au moins ils étaient l'oncle de Harper, ça peut aller quand même. Dans quelle famille rêvez-vous naître? Je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que quelle que soit votre famille terrestre, la Bible déclare que vous êtes désormais de la famille de Dieu. Et parce que vous êtes de la famille de Dieu, votre père, la personne la plus importante dans une famille, c'est le père, ensuite la mère, okay. Les deux sont ensemble importants. Mais le père, votre père désormais, c'est Dieu. Vous faites partie de sa famille. Et parce que nous sommes de la famille de Dieu, bien-aimés, que dirions-nous? Et la Bible dit avec raison quand nous lisons Jean 10, versets 27 à 30. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais. » Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Waouh! Une belle déclaration de notre Seigneur. Personne. Désormais, vous êtes votre bien-être, votre avenir, votre destin. Utilisez tous les mots. Tous les horoscopes du monde, tous les devins du monde peuvent tout déclarer sur vous. Bien-aimés, Dieu qui est votre Père déclare que désormais vous lui appartenez et parce que vous lui appartenez, personne ne peut vous arracher de ses mains. Moi, je n'ai pas besoin de quelque chose pour faire ma journée. Ça fait largement ma journée. Savoir que quand je sors dans la rue, je peux marcher avec un peu les épaules carrées parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais de quelle famille je suis. Tout le monde dit, ah, regardez, c'est M. Agba qui passe. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas mon nom. C'est chrétien qui passe. C'est l'enfant de Dieu qui passe. C'est le serviteur du roi des rois, du seigneur des seigneurs qui est en train de passer. La deuxième raison pourquoi nous pensons que Dieu se consacre entièrement à notre bien, c'est parce que Dieu nous a aimés et il a prouvé. Dieu nous a aimés et il a prouvé. Et un des passages que j'affectionne particulièrement dans la parole de Dieu, c'est dans Romains 8. Dans Romains 8, la fin du chapitre de Romains 8 est extraordinaire quand vous le lisez. Et j'aimerais nous lire les versets 31 au verset 34. Et on voit la compréhension que Paul avait de cette relation de paternité avec Dieu. Quand il écrit ses textes. Et ça transpire dans la manière dont l'apôtre Paul écrit ses textes. Que dirions-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui déclare juste. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort et bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Waouh! Paul avait compris que Dieu non seulement l'a aimé, mais l'a prouvé en donnant son propre fils. Bien-aimé, c'est le Père que vous avez. C'est le Père que nous avons. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer, sans risque de nous tromper ce matin, notre Dieu, Dieu le Père, se consacre entièrement à notre bien parce que nous sommes membres de sa famille, parce qu'il a déjà payé un si grand prix pour nous. Quand vous prenez le reste de toutes vos économies pour acheter quelque chose, bien aimé, je peux vous dire une chose, vous en prenez soin. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a payé le prix le plus cher qu'un homme, que quelqu'un puisse payer en donnant son propre fils. À combien plus forte raison, maintenant qu'il a déjà tout payé pour nous, sera-t-il vraiment le Père par excellence qu'il faut? Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que Dieu défend notre cause. Dieu nous défend. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu nous défend? Est-ce que nous avons besoin d'être défendus par Dieu? Pourquoi est-ce qu'il nous défend? On est grand, n'est-ce pas? On a envoyé tous les enfants de l'autre côté. Maintenant, il n'y a que des adultes, des gens responsables, capables de se défendre eux-mêmes. Personne ne peut parler à votre place. Vous êtes maître de vous-même. Alors, si on est aussi grand, pourquoi Dieu nous défend? Quelques éléments de réponse dans les Écritures. Dans Éphésiens 6, le verset 10 à 12, que vous connaissez probablement bien, l'apôtre Paul écrit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que vous avez à lutter, c'est contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Une des bonnes raisons pour laquelle Dieu nous défend, c'est parce que nous sommes environnés d'un ensemble d'arsenal contre nous parce que nous appartenons à Dieu. Les forces des ténèbres se sont ébranlées pour mettre fin à la glorieuse maison que Dieu est en train de bâtir à la personne de l'Église. Et Dieu, en tant que grand défenseur, prend notre défense. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, a été assez clair, fortifiez-vous, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les hommes, nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les puissances des ténèbres. Bien-aimés, nous sommes dans un combat. Même si aujourd'hui, c'est un peu comme mal vu, un peu déplacé, que nous parlons en termes militaristes, nous sommes dans un combat réellement. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Et Dieu nous défend parce que nous sommes dans un combat. Dans 1 Pierre 5, le verset 8, un verset qu'on connaît assez bien, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Et dans Éphésiens 4, plus loin, versets 25 à 27, il est écrit, « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites à chacun la vérité, à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez pas la place au diable. » Bien-aimés, on pouvait continuer ainsi des textes bibliques qui illustrent pourquoi Dieu nous défend notre cause. Parce que nous sommes dans un véritable combat. Si ce n'est pas le combat contre Satan, contre le diable, c'est souvent le combat contre notre propre chair. C'est pourquoi le dernier verset qu'on a lui dit, renoncez au mensonge, renoncez au diable. Voyez, il n'y a pas une seule occasion que le diable rate pour nous, pour nous amener dans un autre univers. Mais nous sommes ici et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Renoncez au mensonge, renoncez à des choses que votre chair vous dicte, vous amène à faire. Et Dieu, en tant que notre défenseur, se déploie tous les jours à cela dans notre vie. Et cela est d'autant plus vrai, on peut se demander, est-ce que Dieu tout simplement nous arme tout simplement? Comment il le fait? Et une des premières choses que Dieu fait, c'est qu'il nous arme. Il va nous donner les armes. Et lisez le chapitre 6 d'Éphésiens, où on dit toutes les armes que nous devons en tant que chrétiens porter pour pouvoir prendre cette autorité face à toutes les adversités de l'ennemi et devenir victorieux. Donc Dieu nous arme. Dieu nous arme pour le faire. Mais plus que ça, Dieu lui-même combat pour nous. Quand on lit Exode au chapitre 14, le verset 14, il est déclaré dans les Écritures, « C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Des fois, on n'a pas besoin de combattre parce que l'Éternel lui-même combat pour nous. Quand vous dormez à point fermé la nuit, tout ce qui se passe dans le monde spirituel autour de vous, vous ne le voyez pas. Heureusement que vous ne le voyez pas. Parce que si vous pouvez le voir, vous ne dormirez plus jamais dans votre lit. Vous ne dormirez plus jamais dans votre lit. Vous penserez que vous êtes entouré d'une horde d'ennemis. Mais on ne le voit pas, mais Dieu, nous on garde le silence, on est dans le sommeil, on n'a même pas le contrôle sur notre propre corps, mais Dieu combat pour nous. Gloire à son nom. Mais ce n'est pas là le point. Le point le plus important pour nous illustrer que Dieu combat pour nous, c'est le résultat. Les grands hommes de ce monde ont des gardes du corps. Mais malgré leur garde du corps, les hommes les plus puissants de ce monde, un jour, parfois, ont été abattus. En pleine rue, simplement. Et pourtant, ils étaient entourés d'une horde de gardes du corps. Mais voilà ce que la Bible déclare en ce qui nous concerne. Quand nous lisons Ésaïe 54, le verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Waouh! Moi, je n'ai pas besoin de payer un garde du corps, parce que j'ai un en permanence. Dieu défend ma cause en permanence. Je n'en ai pas besoin. Et dans tous les cas, si je paye un garde du corps, il va se faire tuer, ensuite c'est mon tour. Alors, autant payer le meilleur garde du corps qui, lui, ne va pas se faire tuer, mais mieux encore, toute arme qui sera forgée contre moi sera sans effet. Ce n'est pas que j'ai peur des balles. Je dis n'importe quelle balle peut venir parce que c'est sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ensuite, le troisième point, Dieu nous discipline. C'est peut-être le point dont je n'aurais pas dû parler ce matin. Dieu nous discipline. Mais ça fait partie des rôles d'un père, d'un bon père. En tant que père, en tant que futur père, en tant que grand-parent, votre objectif, c'est de discipliner vos enfants en sorte qu'ils soient des exemples, des modèles. Et Dieu s'attelle à faire, en tant que Père, à faire cela dans notre vie. Il y a deux sortes de disciplines. Il y a la discipline qu'on pourrait appeler la discipline corrective. C'est-à-dire que cette discipline a pour objectif de corriger un mauvais comportement que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et nous le faisons dans nos familles. Votre enfant, votre fille, votre fils a un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Il boude alors que vous venez de lui donner un conseil. Alors vous faites quoi? Vous vous attelez à corriger cette manière pour que cela ne se reproduise pas, non seulement à la maison, mais partout dans le reste de sa vie, pour le reste de sa vie. Et Dieu s'attelle à faire la même chose. Combien de choses, des fois, quand nous nous regardons dans le miroir, chaque matin, nous ne nous aimons pas. Il y a des choses que nous n'aimons pas. À combien plus forte raison Dieu n'aimerait pas ces choses-là dans notre vie, nous qui nous proclamons enfants de Dieu. Alors Dieu va s'attacher à corriger ces choses-là. Dieu désire faire une correction en profondeur. Et quand nous lisons Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 7, supportez la correction comme des fils que Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous n'êtes pas enfant légitime. Vous êtes enfant illégitime et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devions-nous pas autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie éternelle. Nos pères, tous nous corrigent pour un peu de temps, comme ils le trouvent bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix et de justice. Et la deuxième chose que nous pouvons mentionner, c'est la discipline que j'ai un peu qualifiée de préparatoire. Parfois, ce n'est pas parce que vous avez fait une mauvaise chose que Dieu corrige ou Dieu met une épreuve, une difficulté devant vous. Dieu, des fois, met une difficulté devant nous parce qu'il veut forger un caractère pour quelque chose qu'il a préparé pour nous, mais qui s'en vient, qu'on n'a pas encore devant nous, mais qui va venir. Si Dieu vous prépare à faire face à certaines réalités, il va mettre certains défis, certaines difficultés, il va forger comme le potier, le texte de base, le potier y va, parce que le vase que le potier fait a un objectif. En fonction de l'utilisation qu'il veut donner à ce vase, il lui donne une forme appropriée pour que le vase réponde à ce besoin. Voilà une autre manière que Dieu, notre Père, utilise pour nous corriger. Bien-aimés, j'aimerais aborder le dernier point. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne parce que la Bible déclare, quand nous lisons le psaume 103, tout le psaume 103, je vous encourage à le lire chez vous. Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, nous déclare psaume 103, les versets 8 à 14. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et pour vous donner une petite illustration de ce qui se passe, de ce que Dieu fait en tant que un Père qui pardonne, j'ai lu récemment l'histoire d'un jeune enfant dans une prédication d'un pasteur américain. Le pasteur a raconté une histoire à propos d'un livre de coloriage que sa mère lui a acheté quand il était en première année. Ce petit garçon ne voulait pas être une poule mouillée parce que sa sœur avait le même livre de coloriage, donc ne voulait pas faire la même chose que sa sœur. Alors, il a commencé à griffonner sur la première page jusqu'à ce qu'elle fût horrible. Il avait atteint la page 10 quand son institutrice l'arrêta et à partir de là, elle l'aida à colorier jusqu'à la fin du livre. Quelques semaines plus tard, il y avait une soirée parents-enfants à l'école. Quand il est rentré dans la classe avec sa maman, son cœur se serra parce que les livres de coloriage étaient au-dessus de chaque bureau. Et le prédicateur dit, « Ma mère a pris mon livre pour feuilleter et j'ai crié. « Oh non, maman, regarde plutôt le livre de Jane, ma sœur. » Mais elle ne voulait pas voir, elle ne voulait voir que mon livre. En tournant les 5 ou 6 premières pages, j'ai vu une larme couler sur sa joue. Je savais que c'était fini pour moi. Mais ensuite, elle a souri et m'a prise dans ses bras et m'a embrassé et dit, « Mon fils, ce livre est beau. Je suis tellement fier de toi. » Je ne comprends pas du tout. Quand elle a remis le livre sur mon bureau, j'ai commencé à regarder les autres livres à colorier. J'ai saisi mon livre et regardé à nouveau parce que je me souvenais à quoi ressemblaient les 10 premières pages. J'ai été vraiment surpris de voir que toutes les mauvaises pages ont disparu. Mon professeur avait arraché les mauvaises pages et vous ne pouvez l'imaginer, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Seulement, mon professeur et moi savions la vérité. C'est exactement ce que Dieu fait. Dieu prend toutes les mauvaises pages de votre vie. Je ne sais pas combien vous en avez exactement. Moi, dans tous les cas, ce sont des tomes. Ce n'est pas des livres, ce sont des tomes. C'est une bibliothèque. Donc, Dieu ne se contente pas d'arracher les 10 premières pages pour ce prédicateur. Pour moi, Dieu enlève karma des livres entiers. Et quand vous rentrez dans ma nouvelle bibliothèque avec Dieu, il n'y a que de bons livres. Des livres. Et c'est ça le pardon que Dieu nous accorde. Ce n'est pas que Dieu fait semblant comme s'il n'a rien vu. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu volontairement enlève, volontairement choisit d'enlever toutes les mauvaises pages et finalement, nous avons le plus beau livre qui puisse exister. Et c'est comme ça que nous présentons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, j'ai l'habitude de prêcher 3 heures, mais je vais devoir arrêter si je veux que le programme se poursuive. J'aimerais finir, j'aime les histoires parce que pour moi, les histoires, c'est une manière que Dieu utilise pour nous faire rappeler des vérités essentielles. Et j'aimerais finir ce matin en vous racontant une histoire en guise de conclusion. Et c'est une histoire assez touchante. Un adolescent qui vivait seul avec son père avait une très bonne relation avec celui-ci. Mais même si le fils était toujours sur le banc, son père était toujours dans les tribunes en liesse. Il n'avait jamais raté un match. Ce jeune homme était encore le plus petit de la classe quand il est rentré au lycée, l'équivalent du cégep. Mais son père a continué à l'encourager, mais aussi en lui faisant très clairement comprendre qu'il n'avait pas besoin de jouer au football s'il ne le voulait pas. Mais le jeune homme aimait le football et a décidé de tenir bon. Il était déterminé à faire de son mieux à chaque pratique. Peut-être qu'il pourrait jouer un vrai match quand il sera un peu plus âgé. Tout au long de l'école secondaire, il n'a jamais manqué une pratique ni un jeu, mais il est resté un chauffe-banc tous les 4 années. Son père a toujours été fidèle dans les tribunes, toujours avec des mots d'encouragement pour lui. Quand le jeune homme est rentré au lycée, il a décidé juste d'être un figurant dans l'équipe. Tout le monde était sûr qu'il n'aurait jamais pu le faire, être à la hauteur, mais il l'a fait. L'entraîneur a accepté de le garder sur la liste parce qu'il met toujours son cœur et son âme à chaque pratique et en même temps, il était un exemple d'esprit combatif et de gestion de stress pour les autres membres de l'équipe. À la nouvelle qu'il n'a pas été retranché de la liste, il a saisi le premier téléphone qu'il a trouvé et il a appelé son père et il lui a dit la bonne nouvelle. Son père s'est réjoui avec lui et a fait commander les billets de la saison entière de l'équipe. Le jeune athlète persévérant n'a jamais raté d'entraînement au cours des 4 années, mais il n'a jamais joué un seul vrai match. C'était la fin de la saison senior de football et comme il trottait sur le terrain de pratique avant le grand match de la série éliminatoire, l'entraîneur lui a remis un télégramme. Le jeune homme a lu le télégramme et silence de mort. Déglutition difficile. Il marmonne à l'entraîneur, « Mon père est mort ce matin. » Puis-je rater la pratique d'aujourd'hui? L'entraîneur mit son bras doucement autour de son épaule et lui dit, « Prends congé le reste de la semaine. Et même pour le match de samedi, ce n'est pas utile de te présenter. » Le samedi arriva et le jeu était très mal parti pour son équipe. Au 3e quart, lorsque l'équipe avait 10 points de retard, un jeune homme silencieux est rentré dans les vestiaires et a mis son équipement de football. Comme il a couru sur le banc de son entraîneur et de ses coéquipiers, tous étant étonnés de voir leur fidèle coéquipier de retour si tôt. « Coach, s'il vous plaît, laissez-moi jouer. Je me sens prêt pour jouer aujourd'hui. » dit le jeune homme. L'entraîneur fait semblant de ne rien entendre. Il n'était pas question que son pire joueur aille sur le terrain lors de ce match éliminatoire très important et serré. Mais le jeune homme a insisté et enfin, se sentant un peu triste pour lui, l'entraîneur lui dit « Bien, vas-y ». À peine entré, l'entraîneur et les joueurs et tout le monde dans les gradins n'en croyaient pas à leurs yeux. Le petit inconnu qui n'a jamais joué avant était parfait sur le terrain. L'équipe adverse ne pouvait pas l'arrêter. Il courait, faisait des passes, bloquait, taclait, comme une star du foot. Son équipe a commencé à remonter le score. Et voici, ils étaient à l'égalité. Dans les dernières secondes de la partie, ce jeune homme a intercepté une passe. Il a couru tout au long du terrain et a marqué le toucher gagnant. Les supporters étaient en liesse. ses coéquipiers l'ont hissé sur leur épaule. Une acclamation comme vous ne pouvez jamais vous imaginer. Enfin, après le match, les casiers se sont vidés, l'équipe a pris sa douche et tout s'est refermé. Mais il y avait un jeune homme encore assis seul dans les vestiaires. L'entraîneur va vers lui et lui dit, « Jeune homme, je ne peux pas croire. Tu étais fantastique. Dis-moi ce qui est entré en toi. Comment tu as fait cela ?» Il regarde l'entraîneur avec les larmes aux yeux et dit, « Eh bien, vous savez que mon père est mort, n'est-ce pas ? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que mon père était aveugle. » Et il poursuit. Il se força de sourire. « Papa est venu à tous mes matchs, mais aujourd'hui, c'était la première fois qu'il pouvait me voir jouer. Je voulais lui montrer que je pouvais le faire. » Voilà ce qu'un père fait pour son fils. Voilà ce qu'un père fait pour sa fille. Voilà le père que Dieu veut être pour toi et pour moi. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, les mots nous manqueraient si nous pouvons décrire, si nous devions décrire tout ce que tu es pour nous. Tu es un Père véritable, un Père qui prend soin de nous, qui se préoccupe de notre bien, un Père qui défend notre cause, un Père qui nous discipline quand il trouve nécessaire et indispensable de le faire, un Père qui nous pardonne. Seigneur, c'est ce Père que tu es pour nous. Et c'est ce Père aussi que nous voulons être pour nos enfants. C'est ce Père que nous voulons être pour nos petits-enfants. C'est ce Père que nous voulons être pour tous les autres enfants que nous rencontrons dans la rue ou dans l'église ou ailleurs dans la société. Nous voulons être des modèles de Père afin que, en notre personne, que ces personnes puissent voir quel Père tu désires être dans leur propre vie. Sois béni en Jésus-Christ. Amen.